Chères auditrices, chers auditeurs, madame, monsieur, bonjour et bienvenue. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Instant Roman d'octobre 2011. Voici tout de suite les titres de cette émission. Voyage chez nos voisins les Français, où la gauche obtient la majorité numérique au Sénat pour la première fois de l'histoire de la Ve République. Nous prendrons la température à Paris, entre autres. De retour en Romandie, influence incroyable à la fête des vendanges de Neuchâtel. Un record pour clore les festivités du millénaire. Le patron d'UBS, Oswald Grubel, démissionne après l'affaire londonienne. Retour sur une succession d'événements qui devraient se ralentir avec l'arrivée de Sergio Ermotti, nouveau président par intérim de l'Union Bank Switzerland. Nous terminerons cette édition avec l'explication d'une nouvelle loi. Le Code civil suisse a été ce 28 septembre 2011 modifié par l'ajout d'une loi permettant aux couples de choisir librement leur nom de couple. Décryptage. Oh, Angela, Angela, my home is your home. Comme je vous le disais en titre, la gauche française a conquis dimanche 25 septembre 2011 le Sénat, une première dans l'histoire de la Ve République. Un réel avertissement pour la droite à 7 mois de l'élection présidentielle. Au total, 170 sièges étaient en jeu pour ce scrutin au suffrage indirect. Les estimations à ce jour élèvent à 176 le nombre de sièges obtenus par la gauche. Cet événement résonne comme un avant-goût des tendances pour les élections présidentielles de 2012. « Ce soir, la bataille commence », a déclaré le Premier ministre François Fillon dans un communiqué, tandis que François Hollande, favori pour la primaire d'investiture du PS, soulignait devant la presse un échec grave et prémonitoire pour le président sortant Nicolas Sarkozy. Signe des espoirs que la gauche fondait en ce scrutin, Martine Aubry, qui ne s'était pas encore exprimée, puis François Hollande, rivaux pour l'investiture présidentielle, s'était rendu au Sénat. Ce qui s'est exprimé aujourd'hui, c'est une sanction à l'égard de l'UMP. C'est un signe encourageant pour 2012, a déclaré au journaliste Harlem Désir, premier secrétaire par intérim du PS. Vous l'aurez compris, c'est toujours et ça le restera pour longtemps une vraie rivalité entre la droite et la gauche. Le président UMP du Sénat, Gérard Larcher, a quant à lui concédé lors d'une conférence de presse une, je cite, poussée réelle de l'opposition. Plus ample que je ne l'avais estimé. Défaite emblématique, le ministre centriste de la ville, Maurice Leroy, a été battu dans le Loir-et-Cher. Les deux autres ministres en liste, les UMP Gérard Longuet et Chantal Joanneau, sont élus respectivement dans la Meuse et à Paris. Un remaniement dans le gouvernement et le Sénat devra obligatoirement avoir lieu prochainement. Autre revers significatif, l'UMP ne conserve que 2 sièges à Paris, où elle en détenait 4 auparavant. La gauche prend du terrain. La gauche, avec un siège supplémentaire, compte désormais 8 élus dans la capitale. L'opposition conquiert également un siège aux dépens de la droite dans de nombreux départements comme La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Pyrénées-Orientales, Isère, Loire-Atlantique, Marine-et-Loire, Haute-Seine, Val-de-Marne, Oise, Yvelines et Nord. Des départements pour certains très stratégiques. En Lozère, foyer historique de la droite, le sénateur sortant UMP Jacques Blanc est battu par le socialiste Alain Bertrand. Cependant, en Meute et Moselle, l'UMP gagne un siège. Le vice-président de la région Île-de-France, Jean-Vincent Placé, membre d'Europe Écologie Les Verts, a fait état d'une progression des écologistes avec au moins 10 élus. Il faut 15 élus pour constituer un groupe au Sénat. Les Verts français comptent parvenir à ce but. François Fillon a toutefois mis en avant les divisions de la majorité et a de nouveau appelé à l'union à droite alors que Jean-Louis Borloo, président du Parti radical, a annoncé son intention de se présenter en 2012.
On s'est tellement menti à ne pas dire pourquoi les sentiments.
Le reste de l'actualité, et ce, en Suisse. La fête des vendanges de Neuchâtel célébrant entre autres un millénaire a battu un record d'affluence. Marquant la fin des festivités du millénaire, la 86e édition de la manifestation a profité d'une météo idéale sur les 3 jours. Corso fleuri, spectacle aérien et feux d'artifice ont porté les suffrages. Ce sera difficile de faire mieux que cette édition, assure, ravi, le président central du comité d'organisation de la fête des vendanges, Thierry Lardon. Les gens sont restés très tard dans les rues grâce à la douceur des températures, dit-il. L'affluence était nettement supérieure aux années précédentes, souligne Pascal Lutti de la police cantonale, sans donner de chiffres. En 2010, environ 200 000 personnes s'étaient pressées dans les rues de Neuchâtel. La manifestation a officiellement pris fin dimanche 25 septembre au soir avec le traditionnel coup de l'étrier. Le président de la ville, Alain Ribaud, a dit adieu au millénaire et au revoir à la fête des vendanges, indique M. Lardon. Les stands servaient toutefois encore les retardataires jusqu'à minuit. Dimanche, à la mi-journée, le conseiller fédéral Didier Burkhalter a pu assister au défilé du Corso fleuri. Une attraction qui a renoué avec le succès, assure M. Lardon. Nous avions facilement 30 000 spectateurs, soit 10 000 de plus que les années précédentes, dit-il. Samedi, le ciel était la cible de tous les regards. Un spectacle aérien de la patrouille militaire suisse s'est déroulé en fin d'après-midi. Les gens ont ensuite pu assister au feu d'artifice qui a duré cette année 35 minutes contre 15 minutes lors de son introduction il y a 2 ans. La fête des vendanges de Neuchâtel devient au fil des années un événement de plus en plus important en Suisse romande. Vivement l'année prochaine! Une annonce choc pour la Suisse en elle-même, mais plus particulièrement pour le monde bancaire international. Le patron d'UBS, Oswald Grubel, a présenté sa démission suite à l'affaire de fraude londonienne. L'affaire du trader frauduleux chez UBS aura finalement coûté son poste au directeur général de la banque suisse. L'établissement a annoncé ce samedi dans un communiqué le départ d'Oswald Grubel. Aujourd'hui, le conseil d'administration d'UBS a accepté la décision d'Oswald Grubel, directeur général du groupe, de se retirer de ses fonctions. Le conseil d'administration a demandé à Sergio Ermotti d'assumer cette position par intérim. Cette nomination entre en vigueur avec effet immédiat, déclare UBS. Le conseil d'administration du groupe était réuni vendredi en session plénière à Singapour. Au départ, Oswald Grubel comptait pourtant défendre sa place. Selon la presse helvétique, il devait profiter d'un rendez-vous à Singapour avec le fonds souverain GIC, qui détient 6,41% d'UBS, pour demander au conseil d'administration de la banque un vote de confiance. Il souhaitait obtenir son aval pour rester aux commandes jusqu'au début 2013 et pour mener à bien la restructuration de la banque d'affaires et de la gestion de fortune d'UBS. Il faut le dire, la banque d'investissement, c'était plus qu'un travail pour M. Grubel. L'ampleur de la fraude du trader londonien Kweku Adoboli aura eu raison de cette détermination. Le conseil rejette la décision d'Oswald Grubel. Ce dernier estime qu'il est de son devoir d'assumer la responsabilité pour les récentes affaires concernant les opérations de négoce non autorisées. Cette affaire, découverte le 15 septembre dernier, a provoqué des remous dans le monde de la finance. Les agences de notation Standard & Poor's et Moody's ont immédiatement placé sous surveillance avec implication négative la note de la dette à long terme A+ de la banque suisse. L'affaire a conduit à la démission de M. Grubel, mais la réputation de la banque internationale suisse en a aussi pris un coup. UBS traque les défaillances de son système de contrôle des risques. Les gendarmes des marchés financiers en Suisse et au Royaume-Uni ont également lancé des enquêtes indépendantes sur les circonstances des pertes subies par la banque. Le conseil d'administration est profondément déçu par la perte découlant des opérations non autorisées et il apportera tout son soutien à l'enquête indépendante. Par ailleurs, il fera en sorte que des mesures d'accompagnement seront mises en place pour empêcher qu'un tel cas puisse se reproduire à nouveau à l'avenir, promet UBS. Il faut dire que l'établissement bancaire est sous pression, alors qu'il tentait ces dernières années de redorer sa réputation écornée par la crise des subprimes en 2008. La Federal Housing Finance Agency, l'agence fédérale américaine chargée de superviser le marché hypothécaire, l'accuse d'avoir revendu 4,5 milliards de dollars d'actifs toxiques aux agences de refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac et lui réclame une contrepartie de 900 millions de dollars. La banque suisse fait également l'objet d'une enquête en France concernant les soupçons d'aide à l'évasion fiscale. Soucieuse de conserver la confiance de ses clients dont elle gère les fortunes, la banque leur a adressé une lettre samedi dernier. Vos avoirs sont en sécurité chez nous, assurait-elle. De son côté, Kwaku Adeboli, le trader de 31 ans, a été maintenu en détention à l'issue de sa comparution jeudi devant le tribunal londonien. Le jeune homme restera emprisonné au moins jusqu'à sa prochaine audition le 20 octobre, a annoncé la juge. L'affaire a beaucoup de points négatifs pour la banque, mais elle en comporte également certains positifs. La banque internationale suisse UBS repart sur de nouvelles bases et revoit sa gestion de risque. Il faut savoir qu'un État peut être détruit par la finance.
Éclaire ton âme comme le feu. Moi j'éteins la lumière.
La loi au goût du jour. Il y a 2 ans, une majorité conservatrice UDC-PDC s'était imposée pour stopper le projet lancé en 2003 par Suzanne Leutenegger-Oberhauser, PS Bâle. Le national s'était contenté d'étendre aux hommes la possibilité de porter un double patronyme. Mais depuis, le Conseil des États, avec le soutien du Conseil fédéral, a relancé la machine, et avec succès. L'époque à laquelle la fiancée devait apporter un dot et renoncer à son nom en se mariant est révolue, a fait valoir Barbara Schmidt Federer, PDC Zurich. Le droit actuel est discriminatoire, il faut donc suivre l'exemple de la France ou de l'Italie. La droite conservatrice a fait feu de tout bois contre cette réforme. Selon Yves Nidegger, UDC Genève, elle va mettre les futurs époux en position de conflit lorsqu'il s'agira, lors du mariage, de décider de patronyme à transmettre à la future génération. Puis, on court le risque de laisser des enfants sans nom de famille, a enchaîné Christiane Lucher, PLR Genève. Les psychiatres estiment que dans 10 ou 20 ans, on fera les frais de ce jeu, a-t-il averti. La réforme offre 2 possibilités aux futurs époux. Lors du mariage, ils pourront garder leur nom de célibataire ou choisir l'un des deux comme nom de famille commun. Il en sera de même pour les homosexuels lors d'un partenariat enregistré. L'option offerte aux époux de porter officiellement un double nom, sans trait d'union, comme Suzanne Leutenegger-Oberhauser, devrait disparaître. Mais Barbara Schmidt-Federer pourra continuer de se faire appeler ainsi, car il s'agit d'un nom d'usage sans valeur juridique, a expliqué l'intéressé.
Toi dans l'air, un mystère, un parfum, longs cheveux qui fend la lumière. Il y a toujours de toi, contre vents et blessures, te rêver me rassure.
Madame, monsieur, nous arrivons à la fin de cette édition. L'équipe Radio Chico Romandie vous remercie et espère que les sujets qui ont été traités dans cette émission vous ont satisfait. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le 1er novembre pour une nouvelle édition. Romain Gollet, Radio Chico Romandie, Estavayer le Lac.